Alors, c'est encore une joie pour moi de pouvoir présenter celle qui va nous apporter son témoignage. Elle est une femme aussi précieuse, une femme de Dieu comme vous. Et elle est bien enracinée dans la parole. Je sais que le cœur de Raymond, c'est que chaque fois qu'une dame puisse venir parler, c'est qu'elle soit bien enracinée dans la parole. Et puis, Azadé, elle s'appelle Azadé Guggen. Elle est une très, très, très jeune femme. Elle a 38 ans, donc c'est très jeune. Parce qu'à 40 ans, on est encore très jeune. Et 50, c'est jeune. Elle est venue donner son témoignage à notre église. Est-ce que vous vous souvenez, les femmes de Mantes-la-Jolie? Oui. Et elle a deux enfants. Elle est mariée. Elle est aussi médecin. Elle est iranienne. Elle est arrivée à l'âge de 11 ans sur Paris. Et c'est en 2000 qu'elle a rencontré Jésus. Et je la laisse vous raconter comment elle... Cela a impacté sa vie.
Merci. Bon, bonjour à toutes. Je suis très ravie d'être là. Alors, je vais vous dire un secret. J'ai un an de plus que ce qu'elle a dit, mais vous avez déjà oublié ce qu'elle a dit. Bon, allez. Donc, ce que je vais me dire, c'est que je vais vous donner mon témoignage, mais en réalité, c'est le témoignage du Seigneur de ce qu'il a fait vraiment dans une vie qu'il peut transformer à sa gloire. Et alors, comme disait Teresa ce matin, nous, les femmes, on est faites pour parler. Et en plus, une femme orientale, je ne vous raconte pas. Mais j'ai un timing, je vais le respecter. Donc, comme Justine l'a dit, je suis iranienne. J'ai vécu en Iran jusqu'à l'âge de 11 ans. Et l'Iran, comme vous le savez peut-être, c'est un pays qui est musulman et qui inculque l'islam, qui est une religion obligatoire. Donc, j'ai baigné dans l'islam. J'ai appris le Coran, je pratiquais dès l'âge de 6 ans. Et j'aimais profondément Dieu depuis ma toute petite enfance. Je vais vous amener une photo, quelques photos d'ailleurs, si on peut mettre la toute première. Ça, c'est la photo de mon passeport, donc de mon passeport iranien. Et j'aime beaucoup cette photo parce que je respecte beaucoup les femmes qui portent le voile parce qu'elles font ça en signe de soumission à Dieu, parce qu'elles aiment Dieu. Et c'est également mon cas. Et on peut enlever la photo. La seule chose qui cloche sur cette photo-là, c'est que... Vous avez vu, je ne souris pas, j'ai un visage très sévère et en réalité, au fond de moi, il y avait une tristesse et une haine très profonde dont je vous parlais tout à l'heure. Et à l'âge de 11 ans, nous sommes venus en France avec ma petite cellule familiale, ma mère, mon frère et ma sœur. Et toute ma famille aimait Dieu et pratiquait l'islam. Et d'autant plus que quand on a vécu en Iran, c'était vraiment un temps de guerre, de disette, de difficultés. Ma mère aussi avait de gros problèmes de santé. Mon père était un homme qui était absent. Et donc, dans toutes ces choses, personnellement, je m'accrochais à Dieu. Je priais, je m'accrochais à lui. Et même une fois en France, je continuais à pratiquer l'islam. Et je pratiquais la prière, les interdits, etc. Et malheureusement, il y avait, malgré tout ça, avec tout le contexte que j'avais vécu, et avec tout le contexte familial, un mal-être au-dedans de moi qui, depuis que j'étais toute petite, finalement, me poursuivait. Et qui grandissait avec moi. J'étais un enfant très introverti, très timide, qu'on n'aurait pas comme ça, je suis là devant vous, mais celui qui peut vraiment tout, je peux vous le garantir. Et toute mon adolescence, je le passais de plus en plus dans un état de haine, dans un état de colère. J'en voulais à mon père, ça se passait très mal avec ma mère, et malheureusement, à l'âge de... Quand on était en France, en fait, notre père ne nous a pas suivis en France, et il nous a même littéralement abandonnés à un moment donné. Et il a refait sa vie, il a épousé une autre femme, puisque la polygamie est autorisée en Iran. Et il a commencé à prendre soin d'une autre famille, dont les enfants, qui avaient des enfants de notre âge. Et là, ça a été un coup de massue, j'ai vraiment développé une haine terrible envers cet homme que j'avais aimé auparavant. Et je l'ai complètement renié, j'ai refusé de recevoir quelles que soient des nouvelles de sa part. Je ne lui ai plus donné aucune nouvelle, et je n'attendais qu'une seule chose, c'est qu'un jour qu'on m'apprenne juste qu'il était mort. C'était la seule nouvelle que je voulais accepter qu'on me donne de mon père. Et toutes ces années passant, je grandissais, mais toujours avec de plus en plus un mal-être, un vide en moi, un non-sens à ma vie. Je devenais de plus en plus solitaire, je détestais les sorties, les fêtes, la musique, je ne le supportais pas. J'avais très peu d'amis, je piquais des crises d'hystérie, des colères, à crier, à taper sur la table, etc. Avec une tristesse et une envie de mort au fond de moi. Et un jour, le coup de massue, ça a été de faire une... grosse dépression réactionnelle. Et j'ai eu un événement très difficile dans ma vie qui était vraiment la goutte qui faisait déborder le vase. Et cette dépression a été très sévère. J'avais à peu près 22 ans. Du jour au lendemain, je me suis retrouvée complètement anorexique. Je ne mangeais plus, je suis tombée à 39 kilos. Je me suis enfermée dans ma chambre. Et dans le noir, je voulais juste dormir. Je n'allais même plus à la fac, puisque je faisais des études de médecine à l'époque. Et pendant 15 jours, je suis restée dans cet état de prostration jusqu'à ce que ma famille soit complètement alertée, appelle une de mes amies et me force à sortir littéralement de chez moi et à me faire suivre par un psychiatre. Je ne voulais pas au début. Le premier jour, j'ai dû sortir. Alors que j'étais sur le bus, que le bus passait sur la Seine, sur un pont, pendant que je regardais par la fenêtre, il y avait une telle douleur morale qui m'assaillait, une telle douleur morale. Malheureusement, il faut l'avoir vécue pour la comprendre. Et, vous savez, c'est ce genre de douleur qui est aussi réelle qu'une fracture physique. Elle est invisible, mais elle vous prend tout l'être. Elle vous prend les tripes. Et je regardais par la fenêtre, je voyais la Seine, et à un moment donné, j'ai eu comme un moment d'absence. Je me voyais dedans. Je me voyais dedans, au fond de l'eau, et tranquille. L'esprit apaisé, la tête endormie. Et à ce moment-là, je reviens à moi et je réalise que non, je suis dans le bus. Et là, j'ai compris que si j'avais été piéton sur le pont, par pulsion, j'aurais été au fond de l'eau. À partir de ce moment-là, je me suis vraiment prise en main. J'ai commencé une psychothérapie qui a duré plus d'un an. J'ai des forts antidépresseurs, j'ai des anxiolytiques, etc. Ça m'a anesthésié un temps, ça m'a fait du bien, mais ça ne m'a pas guéri. Et un an après, quand j'ai retrouvé mes esprits, ma tête, que je suis sortie de cette dépression, je me suis retournée contre Dieu, je lui ai dit, « Dieu, je ne comprends pas tout ce qui m'arrive. Je te prie, je crois en toi, je pratique, mais ma vie va de mal en pis. Alors maintenant, je vais faire une pause avec toi, je vais faire une pause avec l'islam, je vais faire mes expériences par moi-même pour essayer de voir si je peux être enfin heureuse, si je peux enfin connaître le bonheur. Qu'est-ce que c'est que d'être normal, de ne pas souffrir, de ne pas avoir cette tristesse au fond de soi ?» Et là, malheureusement, je suis partie dans 2 années de débauche où j'ai expérimenté toutes les bêtises que je n'avais pas faites. Donc, j'ai commencé à enchaîner les sorties avec alcool, avec tabac, avec du hashish, les sorties avec les garçons. Je les enchaînais les uns après les autres. Une fois qu'ils s'attachaient, je les jetais. Je leur faisais du mal. Je me faisais du mal aussi en même temps. Je prenais comme une sorte de vengeance sur eux vis-à-vis de ce qui s'était passé avec mon père. Et rien de tout cela ne me comblait. Je cherchais à me combler par quelque chose. Je faisais même des sports dangereux à outrance avec comme le parachutisme, le saut à l'élastique. Il fallait que je sente quelque chose au-dedans de moi. Et rien qui venait. Il y avait comme un masque là. Aux soirées, j'étais même la rigolote de la soirée. Et du coup, j'étais de plus en plus invitée à droite et à gauche. Et aucun de mes amis ne se doutait ce qu'il pouvait y avoir au fond de moi-même. Que le soir, lorsque je rentrais chez moi, lorsque je me mettais sur ma couche, il y avait ces larmes qui coulaient, il y avait ces douleurs qui revenaient et qui m'assaillaient à nouveau. Jusqu'au jour où, et là on arrive dans la partie la plus intéressante, vous êtes avec moi ? Je regarde l'heure, c'est bon. Jusqu'au jour où mon dernier petit copain, donc, à l'époque, il commence à aller à l'église évangélique, il commence à me parler de Jésus, il me dit « J'ai rencontré Jésus, il a changé ma vie, il se passe ça, il se passe ci, il est vivant, il faut que tu en entendes parler ». Et là, je le vois effectivement, ce garçon qui commence à changer son mode de vie. Il devient quelqu'un d'autre, il devient encore de plus en plus épanoui, etc. Mais il voulait me parler de son Jésus. Il m'offrait une Bible, etc. Et là, je dis, ouh là 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 là, mon coco. Là là là, t'es mal parti. Parce que vous savez, même si je pratiquais plus au fond de moi, il y avait encore cette, je me disais musulmane. Et à partir du moment où il m'en a parlé, il m'a offensée, il m'outrageait. Et là, tout de suite, toute ma conviction musulmane est revenue. Et là, tout est revenu. Et là, je lui ai dit, ok, mon coco, toi, tu me cherches, tu vas payer pour toute la jante masculine contre laquelle j'ai quelque chose à dire. Et là, je lui ai sorti mon Kalachnikov, mon Coran de 20 kilos, 1 mètre de longueur, 50 cm d'épaisseur. Et là, j'ai commencé à lui balancer des versets coraniques. Et avec lui, c'était la guerre. Et le pauvre, à un moment donné, il connaissait à peine Jésus depuis si peu. Il ne savait pas quoi me dire. Et à un moment donné, dépité, il me dit, je ne sais pas quoi te dire, mais écoute, je veux un camp chrétien de jeunes, bah, t'as qu'à venir avec moi, comme ça tu poseras toutes tes questions au pasteur. Et là, je le regarde, je dis, attends, tu veux que je mette les pieds dans un lieu mécréant? Tu me provoques là, non, c'est impossible. Et vous savez déjà, à ce moment-là, Dieu avait commencé à me conduire dans ses voies. Comme c'est le thème d'aujourd'hui. Parce que cet été-là, alors que j'avais des super projets, tout est tombé à l'eau. Toutes les portes sont fermées. J'avais déposé un beau dossier pour aller faire un stage, j'ai déposé un beau dossier à la fac pour aller faire un stage de médecine à l'étranger, suite à quoi je devais aller passer des vacances ailleurs avec un ami. Et tout est tombé à l'eau, la fac qui a refusé mon dossier, l'ami qui est tombé malade, etc. Donc je me suis retrouvée à la dernière minute sans rien. Et donc là, je dis, bon, écoute, vas-y, comme ça tu vas avoir sa peau. Tu pourras le contredire avec ce que les autres sont en train de lui dire. Tu vas te renseigner et tu pourras le convertir dans l'autre sens. Et là, je suis allée finalement à ce camp, avec mon Coran, bien sûr, et la Bible qu'il m'avait offerte pour me renseigner, pouvoir le reprendre. Et pendant une semaine, j'étais là, assidue, à toutes les réunions. J'étais là, avec le même visage que vous avez vu tout à l'heure. Et les chrétiens, ils étaient gentils. Les jeunes, ils venaient me voir, ils me racontaient leur vie, comme je suis en train de faire là maintenant avec vous d'ailleurs. Ils me disaient leur témoignage, ce que Dieu avait fait pour eux. Et puis moi, je les regardais, parce que j'étais scientifique aussi. Donc, je me disais, ah, c'est ça, ils ont tous un souci. Il fallait qu'ils s'accrochent à quelqu'un, à quelque chose. Ils ont trouvé Jésus, ils ont trouvé la foi, ok, c'est ça. Puis je les voyais qui louaient le Seigneur, comme ça. Je me disais, ah oui, ça, c'est une hystérie collective. Ils sont tous dans un état d'extase. C'est ça, tout s'explique, c'est logique. Bon, je comprends. Cela dit, j'entendais parler de Jésus pour la première fois de la sorte. Et je n'avais rien à en redire. Si Jésus, si Dieu avait voulu faire de la sorte, envoyer son Fils unique, etc., je dis, bah, après tout, il pouvait le faire. Par contre, tout tapait là-dedans, mais rien ne rentrait là-dedans. J'étais là pour dire le contraire, pour parler du Coran. Et à la fin, même les pasteurs, ils en avaient tellement marre de moi. Ils m'ont dit, Azadé, écoute, on ne sait plus quoi te dire maintenant, tu sais. Tu as entendu... Demande-lui directement. Et là, je les ai regardés, je me suis dit, mais comment ça? Mais ils sont vraiment fous jusqu'au bout, ces chrétiens-là. Ils me disent de demander à Dieu pour qu'il se révèle à moi. Mais Dieu ne va pas m'envoyer un ange. Il ne va pas se... Et au fond de moi, vu que personne ne voulait plus me parler, je suis restée seule avec une pensée, avec un verset qu'on peut projeter que Jésus a dit. Jésus qui dit dans Jean 14, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Nul ne vient au Père que par moi. Et cette parole de Jésus-là est tellement claire, nette et précise, que je me suis arrêtée en me disant, bon, et si c'était ça la vérité? Enfin, je disais, si jamais j'apparais devant Dieu à ma mort et que je vois qu'il y a Jésus qui est à sa droite, je ne pourrais pas lui dire, je ne savais pas, je n'avais pas entendu parler de toi, j'en savais beaucoup trop pour ne pas aller plus loin. Et ce qui fait que j'ai dit, ok, j'ai pris une semaine supplémentaire à part, où cet ami m'a prêté son appartement, et j'ai commencé à lire moi-même la Bible. Je connaissais le Coran, donc je me suis plongée dans l'évangile de Matthieu et de Jean. Je lisais, et au bout d'une semaine, je trouvais ça beau, ça me touchait personnellement, humainement, mais ça ne transformait pas mon cœur. Et le dernier soir, il ne s'était rien passé, je devais prendre l'avion le lendemain pour rentrer chez moi, et... J'étais déçue, je ferme mon sac, je fais toute ma valise, etc. Et là, je parle à Dieu, je lui dis, tu vois Dieu, la seule prière que je savais faire, j'avais faite pendant une semaine, c'était Dieu. Je ne suis qu'un être humain, je cherche la vérité. Ce que je te demande, c'est toi de venir me le dire comme ces gens-là le disent. Et si je me trompe, ce ne sera pas de ma faute, je suis qu'un être humain. Toi, tu es Dieu, toi, tu pourras me reprendre. Mahomet, si c'est toi la vérité, viens me le dire. Jésus, si c'est toi la vérité, viens me le dire. Comme ça, je mettais tout le monde comme ça en rivalité, je me dédouanais de tout au cas où je me trompe. C'était plus de ma responsabilité. Et le dernier soir, tellement déçue, je dis, voilà Dieu, tu vois, tu ne m'as pas répondu. Et pourtant, j'ai cherché de tout mon cœur, mais maintenant, je vais retourner à ma vie d'avant. Je ferme ma Bible, je mets toutes ces histoires-là de côté et je rentre chez moi. Et donc, je pense à d'autres choses comme littérature, les magazines de variété, etc., pour me changer les idées. Et à ce moment-là, alors que j'étais seule dans le salon, pendant que je suis en train de feuilleter, une sensation étrange qui m'arrive. Je commence à avoir des palpitations au cœur. Je commence à me sentir physiquement bizarre. Étant médecin, je m'examine, je me dis, ah oui, tu es en train de faire un malaise vagal, tu es trop éprouvée, il va falloir que tu te reposes. Donc, je m'allonge. Je commence à prendre mes pulsations, à me calmer, mes jambes en l'air, à dire calme-toi, ça va passer, calme-toi, ça va passer. Et au fur et à mesure que j'essaye de me détendre, je vois c'est une puissance qui commence à envahir la salle, en fait, qui commence à envahir, et qui vient de l'extérieur. Et d'un seul coup, je réalise que ce n'est pas moi, que c'est quelque chose qui est en train de venir m'envahir de l'extérieur et qui me provoque cette sensation physique étrange. Et là, je bondis sur le canapé, et de plus en plus, je commence à avoir peur. Et là, d'un seul coup, je me dis, mais c'est Dieu, Dieu, il est là, mais qu'est-ce qui se passe ici? Et pendant que je dis ça, je sens cette puissance qui se transforme en un amour immense qui prend toute la place, qui envahit toute la salle et qui n'avait rien à voir avec un amour humain. C'est un amour qui se donnait, qui n'avait rien de comparable avec ce qu'on peut connaître humainement. Et en même temps, c'était un sentiment de paix immense et un sentiment de solidité, quelque chose qui était fort, qui était puissant et qui était impressionnant. Et à ce moment-là, j'ai tellement peur que je cache mes yeux dans mes mains. Et là, pendant que je suis là, je me dis, mais qu'est-ce qui va m'arriver? Qu'est-ce qui va se passer? Et théoriser de ce qui allait se passer. D'un seul coup, je sens un homme qui se tient devant moi, une personne qui me prend dans ses bras et qui me parle clairement. Et il me dit, tout ce que tu as entendu sur moi est la vérité. Je suis là maintenant avec toi. Je serai toujours là avec toi. J'ai toujours été là avec toi. Et c'était Jésus-Christ. C'était Jésus-Christ. À ce moment-là, je suis tombée à genoux. J'étais en larmes de repentance, de lui parler, de lui demander pardon pour tout ce que j'ai pensé de lui, tout ce que j'ai dit sur lui. En même temps, je disais, mais comment tu as pu me connaître? Je ne te connaissais pas. Comment est-ce que tu as pu être là avec moi? Et en même temps, une sensation de joie extraordinaire qui m'envahissait, où je ris aux éclats. Je pense que si on m'avait filmé, on m'aurait juste interné dans l'immédiat. On m'aurait dit, c'est, elle est schizophrène, elle vient de... Excusez-nous. Bon, c'était juste extraordinaire. Et à ce moment-là, je ne saurais pas vous dire pourquoi, mais sa présence a été la raison de vivre de ma vie. Je savais pourquoi j'étais là, qu'un Dieu m'avait aimée, qu'il m'avait créé, et que le jour où je partirais, tout avait un sens. C'est en lui que tout cela se passerait. Je suis rentrée chez moi. J'ai dû l'annoncer à ma famille. Et toujours, Dieu continue à me conduire dans toutes ses voies. Il a été bon, il a permis que je puisse leur annoncer un à un. Parce que c'est la période des vacances. J'ai pu d'abord parler à ma mère. Ma sœur n'était pas là. Après, c'est elle qui est rentrée. Après, j'ai pu le dire à mon frère qui est rentré. À chaque fois, ça a été un choc pour chacun d'entre eux. Et ils ont été persuadés que j'étais dans une secte pour qu'il y ait une transformation à ce point-là. Et donc, ils sont venus à l'église pour inspecter. Mais, en venant avec moi pour inspecter, en assistant au culte, à la parole de Dieu, à la louange, à la présence de Dieu, dès les premières réunions, le Seigneur a commencé à leur parler, il a commencé à les attraper, il a commencé à faire des miracles dans leur vie. Alléluia. Ils pourront vous donner leur témoignage chacun. Ils pourront vous raconter mon frère qui était tabagique depuis 10 ans, a instantanément entendu la voix de Dieu lui dire « Jette ton paquet, jette ». Il a été sauvé instantanément. Ils pourront vous raconter tout ça. Que ce soit ma mère, mon frère, ma sœur, les trois sont au Seigneur maintenant. Ils ont été restaurés, guéris d'un tas de choses. Et mon père, vous vous souvenez de mon père, lorsque j'ai rencontré l'homme de ma vie, je n'arrivais pas à faire le pas avec lui. Il y avait une telle phobie du mariage, en fait, en moi. Il y avait une telle suspicion de mal vis-à-vis de l'homme, du sexe masculin. Quand je priais, Seigneur, montre-moi si c'est l'homme de ma vie, le Seigneur m'a dit, pardonne à ton père. Je dis, mais Seigneur, non, je te parle de ce garçon-là. Mon père, il est là-bas, en Iran, je l'ai oublié, c'est pas grave. Je dis, pardonne à ton père. J'ai fait la prière, avec la foi simple que j'avais. J'ai prié, j'ai regardé ce que c'est que le pardon dans la Bible. J'ai dit, Seigneur, aide-moi. En 24 heures, il y a quelque chose qui s'est passé là. D'un seul coup, c'est comme si mes yeux s'ouvraient complètement sur ce garçon-là. C'était évident. C'était l'évidence même que c'était le Seigneur qui me l'avait choisi. Et en même temps, mon père, il a commencé à me manquer à un point. Il y a un amour particulier qui est venu. Je le voyais qu'avec un regard divin différent de l'homme qu'il était, qu'il n'avait pas pu nous donner ce qu'il n'avait pas pu recevoir. Et je l'ai appelé au téléphone. Je lui ai dit, « Papa, je t'aime. Il faut que tu viennes. Ma vie a changé. Je vais me marier. Je veux que tu viennes. » Et je n'entendais pas mon père au téléphone. Il était tellement étonné qu'il ne pouvait même plus parler. Il était en larmes suite à mon coup de fil. Il est venu ici en France, il a assisté à notre mariage. Il est tombé amoureux de Jésus. On ne lui a rien dit. Il a... Gloire au Seigneur parce que... Gloire au Seigneur parce que... Un bouton ? Ah. Et donc il est reparti avec le Seigneur dans son cœur parce qu'il a juste vu la transformation, l'amour divin, quelque chose qui était là au milieu de nous et qui lui avait pardonné d'emblée et qui lui a rien reproché. Le Seigneur a fait de grandes choses par la suite dans ma vie. Il a changé radicalement le cours de ma vie. Je peux vous raconter toutes les... Je suis médecin pourtant et je peux vous dire qu'il a opéré même des guérisons physiques dans mon corps, la migraine, un polype d'aspect malin qui a disparu, etc. Mais le plus grand des miracles qu'il a fait dans mon cœur, dans mon âme, c'est effectivement ce que disait Teresa ce matin, c'est cette paix dans l'âme, cette restauration dans l'âme. Et oh, combien on sait que tous les riches du monde voudraient se le procurer, voudraient se l'acheter, mais que le seul qui peut véritablement le donner, c'est celui qui s'appelle le prince de la paix. Est-ce que c'est Jésus-Christ lui seul? Alléluia. Il faut mettre la photo. Cette photo-là, vous voyez, en bas à droite, c'est moi quand j'étais petite. La petite fille qui est en haut, c'est ma fille quand elle avait que quelques mois. Maintenant, elle a 10 ans. Et vous voyez, ça, c'est le miracle de Dieu. Ça, c'est l'œuvre de Dieu. Parce que la petite fille en bas à droite, là, telle que Satan avait emprise sur elle, elle allait à sa perdition. Elle était vouée à la dépression et elle était vouée au suicide. Je sais aujourd'hui que si je n'avais pas rencontré le Seigneur, je me serais donné une fin à mes jours. Et voilà ce que le Seigneur a fait. Non seulement il a donné un tournant complètement différent à ma vie. Moi qui me savais tellement faible, tellement fragile, pas capable d'avoir un mari, pas capable d'avoir des enfants. On peut montrer juste la photo d'après. Voilà ma famille, mon mari, mes deux enfants que le Seigneur m'a confiés, qui sont juste merveilleux, qui sont juste un miracle de Dieu, qui aiment le Seigneur, qui sont en bonne santé. Et voilà toute la joie que j'ai à vous partager ce témoignage. Et pour finir, je vous invite à lire, à ouvrir vos Bibles dans Ésaïe 61, une parole du Seigneur qu'on va lire ensemble pour nous le proclamer. Vous savez, lorsque le Seigneur dit « Je suis le chemin, la vérité, la vie » dans Jean 14, vous le lirez chez vous. Il le dit à un moment donné où il a déjà passé 3 ans avec ses disciples. Où il a déjà fait des miracles, il a accompli tellement de choses devant leurs yeux, ils l'ont entendu, ils ont été enseignés. Et à ce moment-là, il est en train de leur donner ses dernières recommandations. Et quand il dit « Je m'en vais au Père », il y a Philippe qui lui dit « Mais Seigneur, montre-nous le Père, cela nous suffit. » Et là, Jésus, il se retourne, il le regarde et lui dit « Mais Philippe, ça a fait tant de temps que je suis avec vous et tu ne m'as toujours pas reconnu. » Tu ne m'as toujours pas reconnu. Voyez, on peut même connaître le Seigneur, être convaincu de son amour pour nous, être convaincu qu'il est Dieu, qu'il est puissant, qu'il peut faire des choses. Mais parfois, il y a aussi l'ennemi qui vient nous voler des choses. Teresa disait ce matin, comment le diable, comment Satan en veut aux femmes. Est-ce que vous avez remarqué combien la dépression est plus féminine que masculine? Combien les femmes sont touchées par cela? Est-ce que vous savez qu'en France, que la France est dans toute l'Europe le premier pays consommateur de tout ce qui est antidépresseur, anxiolytique, somnifère, etc. Il y a une vraie plaie, il y a un vrai fléau sur notre pays. Et voici pourquoi nous devons chérir cette parole et croire que le Seigneur est la solution, parce qu'il est le créateur de l'âme lui-même. Dans Ésaïe 61, il est dit du Seigneur, « L'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi, sur Jésus. Car l'Éternel m'a oint pour porter des bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés. » Alléluia, Seigneur. Nous allons le proclamer sur nous, si vous le voulez bien. Vous savez, malheureusement, je vois tellement dans mes consultes ce genre de fléau. Alors que moi-même, j'étais dans ce cas-là. Comment le Seigneur, par sa joie, par sa restauration, a pu relever ma tête et m'utilise aujourd'hui, à mon tour, pour que je puisse donner ce qu'il me donne. C'est juste incroyable, parce que ce n'est pas moi, ça. C'est lui, ça. C'est lui. Et combien de fois, que ce soit des jeunes à 8 ans qui veulent se donner la mort, que ce soit des personnes âgées à 70 ans qui se donnent la mort, qui en arrivent là, ou que ce soit des personnes qui sont troublées par la vie, éprouvées par la vie simplement, et qui croient qu'ils sont dépressifs, qu'il leur faut un traitement fort, qu'il leur faut ça ou il leur faut ci, alors que non, c'est un moment difficile à passer. Il y a de tout. Et l'ennemi vient nous mentir. L'ennemi vient nous dire, tu ne peux pas t'en sortir seul. Tu es déjà par terre, tu n'as pas la force de te relever seul. Tu ne vaux rien, tu n'as rien reçu, tu ne peux pas donner. Regarde-toi, regarde où t'en es arrivé, tu ne seras plus jamais comme avant. Tu as déjà fait une dépression dans ta vie? Tu vas en refaire d'autres. Tout cela, ce sont des mensonges de la voix de l'ennemi. Et voici ce que le Seigneur nous dit. Il est venu pour publier une année de grâce sur notre vie. Il a dit, je suis le bon berger. Je suis venu pour donner la vie, et la vie en abondance à mes brebis. La vie en abondance à mes brebis. Il nous connaît toutes par nom. Et encore aujourd'hui, il veut nous déposer un dépôt de force, de courage, de restauration, de guérison dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen.